Bonjour et bienvenue dans le podcast Toujours dans les bons coups. Un podcast qui parle sexe, sexualité et tout ce qui tourne autour. Avant de commencer l'épisode, nous souhaitons vous informer que ce podcast peut parler de sujets sensibles et que certains propos peuvent être durs, choquants, dépassés et que nous ne sommes pas toujours en accord avec ces derniers. Le sexe, c'est souvent cool, mais certaines expériences peuvent l'être beaucoup moins. Soyez attentifs, faites attention, protégez-vous et restez à l'écoute pour être toujours dans les bons coups. Bonsoir Léane.
Bonsoir Robin.
Et bienvenue dans un nouvel épisode de...
Toujours dans les bons coups.
C'est comme ça qu'on a articulé. Aujourd'hui, on reçoit un nouvel invité, Noé.
Exactement, bonjour.
Comment ça va?
Ça va très bien et vous?
Bah, ça va, ma foi. On est très contents de te recevoir, hein. Tu nous avais été recommandé il n'y a pas si longtemps par Mathilde, qui est passée récemment dans le podcast.
Mais moi aussi, je suis très content d'être là, en bonne compagne.
Bah, ça fait très plaisir, on va te laisser te présenter parce que je crois que tu as plein de choses à dire
c'est vrai.
Sur toi.
Donc je m'appelle Noé, j'ai 22 ans, je suis en recherche en littérature, ça a l'air très compliqué comme ça, mais en fait, je sais pas ce que je recherche.
Et comme tout le monde. Hein.
Ah ouais, c'est ça. Et voilà, je fais du drag sous le nom de Desperate House Dyke. Voilà.
Très très stylé le nom d'ailleurs, hein. quand je l'ai vu sur la liste, je m'attendais à voir du coup Gender Hacker en nom. Quand j'ai vu
et
le Desperate,
non,
j'ai fait...
Surprise.
Et du coup, est-ce que tu peux nous parler rapidement du coup de Gender Hacker, si c'est toujours d'actualité d'ailleurs?
Oui, tout à fait. Alors, Gender Hacker, c'est un projet qui est né en juin 2023, où j'ai créé un zine financé par l'université. Merci l'université.
Merci l'université.
Et c'est sympa, il y a des témoignages de personnes queer qui racontent un petit peu leur expérience. Il y a des interviews de gens très sympas comme Poulbi Tatou, Louison Tatou de Tatoueur Bordelais Super Cool et Prudence Lips, reine du drag bordelais, on peut le dire.
On peut le dire qui fait partie de la plus grosse famille de drag sur Bordeaux et qu'on doit aussi recevoir dans notre podcast bientôt parce qu'elle a fini sa thèse
Star.
Il y a 6-7 mois je crois.
Oui c'est ça.
Donc voilà, c'est super. Tu vois la famille Lips ou pas?
Tu m'en as parlé un nombre de fois incalculable.
Et t'es toujours pas allé voir.
Et non.
La honte.
La honte, ouais.
Pardon, me jugez pas. On a dit que c'était ouvert d'esprit, sans jugement ici.
C'est vrai, mais il faut quand même aller voir vite ce que fait la famille Lips.
Promis.
C'est important.
Oui.
C'est notre mise sympathie quand
c'est
même.
Promis, je
Première du nom. Mmh. Voilà, maintenant qu'on a bien shamé Léane, on va pouvoir commencer l'interview en cherchant ton premier souvenir lié au sexe ou au plaisir.
Alors, mon premier souvenir, je vais casser l'ambiance, c'est une relation qui n'était pas consentie avec un homme, bien sûr. Donc voilà, premier souvenir pas fou. Je me suis pas rendu compte tout de suite que c'était une agression, parce que conditionnement, tout ça. Juste, je me souviens d'avoir vomi après. Déjà, ça aurait dû mettre la puce à l'oreille. Quand même, généralement, t'es pas... sauf si t'es bourré, tu vomis pas après. Mais voilà, ça a conditionné pas mal ma vision de moi-même par la suite, notamment dans mon identité, je pense. Parce que après, quand je me suis rendu compte que j'aimais les filles, je me suis dit peut-être que c'est parce que j'ai subi une agression par un homme et du coup, c'est un espèce de rejet et tout. Alors que, spoiler, ça n'a aucun rapport.
Okay.
Et même dans mon identité de genre, après, je me suis dit... peut-être que je suis trans parce que j'ai eu une agression et du coup, je rejette un peu mon corps et ma féminité. Alors que non, dès que j'étais petit, j'ai dit à ma mère, j'ai pas envie de mettre de robe, j'ai pas envie de faire ça. Donc voilà.
C'est arrivé à peu près vers quel âge, cet événement?
C'était au lycée, un peu avant le bac, en bombe. Voilà.
Très bien. C'est pas comme si on avait pas assez de problèmes et de pression à ce moment-là.
C'est ça.
Que ce soit le bac ou même les émotions quand t'es ado, en plus, assez de choses à gérer.
C'est clair. Et du coup, tu nous parlais de tes questionnements d'identité de genre. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
Oui, alors c'était un assez grand cheminement. Je pense que j'ai toujours ressenti que j'étais pas trop en phase avec ce qu'on attendait de moi par rapport à la féminité et tout ça. Et au bout d'un moment, j'ai vu un documentaire sur YouTube en mode... les personnes trans, blablabla. C'est un documentaire. Je pense qu'il était un peu problématique parce que c'était dans des années où c'était pas encore très... Il n'y avait pas encore beaucoup de connaissances là-dessus. Mais en tout cas, je me suis dit, OK, ça existe. Donc, je pense que je me reconnais dans ces personnes et que du coup, je me suis identifiée à des garçons trans et ça me rassurait d'avoir ça en tête. Et puis après, quand je m'identifiais comme mec trans, je me suis rendu compte qu'il manquait toujours un truc et que c'était pas complètement moi, que je me reconnaissais pas vraiment dans cette masculinité. Et en me baladant sur TikTok comme le tiers de ma journée, j'ai vu des personnes non binaires, transmasques, donc plus dans un spectre masculin. Et je me suis dit, mais c'est trop bien en fait. Genre, ils sont ni l'un ni l'autre. C'est assez fluide comme identité. Et je me reconnaissais vraiment là-dedans. Parce que pour moi, femme et homme, c'était hyper abstrait. Et je me reconnaissais pas là-dedans. Donc voilà, ça fait, je pense, 2-3 ans que je me suis trouvée, on va dire. C'est pareil, il y a très peu de représentations non binaires. Donc moi, je sais que je voulais prendre des hormones, mais que je voulais pas une transition... je dirais pas complète, mais complètement dans les critères masculins. Donc j'ai pris des micro-doses de testostérone. C'est pareil au niveau torsoplastie. Je me suis dit, mais je suis non-binaire, donc est-ce que j'ai le droit de faire une torsoplastie? Est-ce que ça fait pas de moi un mec trans? Et finalement, je me suis dit, bah, on s'en fout, je fais les opérations que je veux et ça reste fluide.
Mais après, c'est à toi de te sentir à l'aise avec ton corps, il n'y a pas de règles.
Mais c'est vrai que niveau représentation, on avance quand même. Il y en a pas mal, c'est des Américains notamment, mais en France, on avance un petit peu doucement, mais sûrement.
Tu as réussi quand même à trouver des modèles, des gens auxquels tu pouvais t'identifier, je sais pas, sur les réseaux sociaux ou autres?
Oui. Oui, j'ai quand même trouvé quelques influenceurs, influenceuses queer sur TikTok. Bon, il y a beaucoup d'Américains, mais ouais, quand même, en France, il y en a qui commencent à être plus visibles et c'est trop chouette. Et par rapport à ça, à mon identité, orientation sexuelle, j'ai eu du mal à me dire lesbienne, en fait, parce que pour moi, c'était vraiment une femme qui aime les femmes. Mmh. Et... après, je me suis dit, bah non, en fait, une personne non binaire qui aime les femmes, c'est tout autant une personne lesbienne. Enfin, vraiment, autodétermination. Tu peux être lesbienne si tu te le ressens, et voilà. Et j'ai eu du mal, du coup, à dealer avec ça, à me dire, mais une meuf lesbienne, elle va pas vouloir sortir avec moi parce que je suis pas une meuf et c'est pas vraiment ce qu'elle attend. Et peut-être que je serais trop masculin pour elle. Donc, ça a été beaucoup de questionnements quand même par rapport à ça.
Tu te poses des questions encore aujourd'hui ou tu arrives à peu près à y voir plus clair
Non, là, ça va. Franchement, ouais. Je me suis pas mal renseignée sur la culture lesbienne et les lesbiennes qui étaient vraiment visibles dans les années 50, c'était des butch, enfin des lesbiennes très masculines qui, la plupart, enfin quelques-unes en tout cas, prenaient de la testostérone et se disaient pas trans, mais juste elles étaient hyper... dans une fluidité de genre et ça m'a rassurée de voir qu'il y avait des représentations et ça date pas d'aujourd'hui quoi, c'est beaucoup plus ancien et voilà.
Et en te disant lesbienne, est-ce que tu n'as pas peur qu'on te genre au féminin du coup?
Si, mais disons que je le dis pas à n'importe qui, enfin je veux dire sinon je vais dire je suis avec une fille ou ouais. J'aime les filles et voilà, lesbienne c'est vraiment pour...
C'est ton jardin secret, quoi.
C'est mon jardin secret. C'est pour les aficionados de la commune.
Les intimes.
Ouais.
Et est-ce que toi, tu t'es découvert des fantasmes réels ou fictifs? Ça peut être des personnages, des acteurs, actrices ou autres.
Alors, il y a 10 ans est sorti le clip incroyable de Shakira et Rihanna, Can't Remember to Forget You, avec mon accent incroyable. Et vraiment, ce clip... Je le regardais, j'étais au collège, j'avais chaud. Et je me disais, non mais j'aime pas les filles, mais quand même.
On peut trouver les filles.
La musique, elle est vraiment cool, bon. Quoi. Et non, c'était pas musicalement du tout. Enfin, si, la musique est très bien, mais le clip est vraiment cool. Et ouais, je pense que ce clip, de toute façon, je le regarde souvent. Hein. Franchement, je le regarde et je me dis, ouais, je me souviens, c'est cool.
C'est ça qui m'a fait émerger un peu, ce genre vraiment. D'idée, ouais.
Ah putain, ouais, puis alors Shakira déjà à l'époque, ça faisait déjà des clips très sensuels. Mais je me souviens que quand celui-là il est sorti, ça avait pété Internet. Et il existe une vidéo de moi qui refait le clip avec ma sœur, mais je ne vous dirai pas où le trouver.
Je serais vraiment curieuse de voir ça.
Bon, on tape juste notre cul contre un mur. Hein. Vraiment, on a réussi qu'à reproduire ça. Hein.
C'est déjà bien.
C'est ce qui est déjà pas mal, sachant que je n'ai pas de cul. Donc déjà, c'est assez exceptionnel. Tu l'as jamais vu, tu peux pas dire.
En pantalon.
Bah tu l'as déjà vu.
Bah oui, t'es habillé quand même, on voit les formes.
Bah justement, d'où ma question, est-ce que t'as déjà vu une forme derrière ce pantalon ?
Tu es trop dur avec tout le monde.
Je suis un peu dur avec moi-même, mais j'y travaille.
C'est vrai.
Et est-ce que ces premiers fantasmes t'ont conduit du coup à découvrir des premiers orgasmes ?
Je pense que mon premier orgasme, c'était avec ma copine actuelle. Voilà, parce qu'avant, je pense que j'étais même pas à la recherche de ça forcément. Et juste, je passais un moment et j'étais là, bon, bah voilà. Et j'étais là, ouais, c'est très surfait en fait. Vraiment, je comprends pas pourquoi on en fait tout un truc. Et ouais, en fait, je me suis dit, après avoir eu mon premier orgasme, je me suis dit, ouais, quand même, je comprends.
C'était pas si
ouais. Je comprends la hype autour, ouais, vraiment.
Et avant ça, tout seul, pas du tout ?
Bah non, enfin, en fait, je pense que j'ai eu un peu des. J'ai commencé la masturbation à l'adolescence, mais vraiment pas fréquemment. Et il y a une énorme période où juste je faisais rien. Je sais pas, genre je pense que c'était un mélange de dysphorie, de je me sens pas bien dans mon corps. Même ça me dégoûte et tout, mais ça me dégoûte parce que la société te renvoie un truc de c'est dégueulasse et tout. Donc ouais, mais non, tout seul non.
Est-ce que tu peux expliquer un peu ici ce que c'est la dysphorie ?
Dysphorie, c'est le contraire d'euphorie. Donc euphorie, c'est quand on est super content. Et dysphorie, c'est quand on n'est pas très content de son corps. Ouais, c'est un espèce de mal-être où tu te sens pas bien dans ton corps, où tu sens que t'aimerais qu'il soit autrement. Ouais, voilà, c'est ça.
Ok.
Et du coup, maintenant que tu as découvert ce qu'étaient les orgasmes, même si avant tu as eu une période où tu te masturbais pas, est-ce que c'est quelque chose que tu as recommencé à faire du coup ?
Ouais, après c'est vraiment. Comment dire ?
Occasionnel ?
Ouais, c'est pas un truc qui m'obsède, on va dire. Je sais pas, quand j'ai envie d'une relation sexuelle, généralement, c'est un partage. Et je trouve peu mon compte dans la masturbation. Enfin, voilà.
Est-ce que c'est parce que t'as une libido qui est plutôt faible ou ce serait plutôt une autre raison ? Que tu trouves, par exemple, comme tu disais, le plaisir plutôt à travers un moment passé ?
Non, je pense que je peux ressentir du plaisir tout seul. C'est juste que, bah, vu que je suis en couple, j'en ai pas trop l'occasion, on va dire.
Ok.
Voilà. Mais d'ailleurs, en parlant de libido, du coup, quand j'ai commencé la testostérone, il y a eu un espèce de pic. Mmh. Et je voyais plein de personnes transmasques qui disaient « Oui, il y a vraiment un pic de libido. » Et je me suis dit « Bon, ok, je demande à voir. » Et vraiment, j'avais l'impression d'être un mec de 14 ans. J'avais déjà tout le temps chaud. C'était insupportable. Je transpirais vraiment tout le temps. Et la libido, c'était impressionnant. Enfin...
Tu fais une deuxième puberté, en fait.
Ouais, mais vraiment, c'est fou. Et après, quand j'ai commencé à baisser un peu les doses et tout, et que j'ai recommencé à avoir mes règles, parce qu'elles sont jamais vraiment parties.
Ouais, hein. Les connasses.
Ouais. Ouais, et ben, j'ai vraiment senti la différence. Et limite, un moment, pendant des semaines, où j'ai plus eu aucune envie. Ben, c'était pas un problème en soi, parce que c'est pas grave, mais c'est vrai que c'était fou de voir le travail des hormones sur la libido.
Ça a quelle place dans ta vie, la sexualité ?
Ça a la place que je lui laisse, c'est-à-dire quand j'en ai envie, quand l'autre en a envie. J'ai pas vraiment de préconception de je dois avoir tel rythme, telle fréquence et tout. Juste, je pense que ça se fait un peu naturellement, ça se met en place comme ça.
Ok.
Pardon, est-ce que tu peux nous parler de l'éducation sexuelle que tu as reçue ou pas reçue ?
L'éducation sexuelle, alors j'ai été en établissement privé catholique jusqu'au lycée en fait. Donc l'éducation sexuelle, c'était pas grand-chose. C'était à la limite un cours au collège où on apprenait à mettre un préservatif sur, sur une chaise. Ouais,
sur les barreaux, pieds de la chaise. Ouais. Mais c'est con.
Oui, c'est très bizarre à faire.
Comme si une queue ressemblait à un pied de chaise.
Ouais. Oui. Et en fait, ça faisait trop rire les garçons, les filles, elles étaient trop mal à l'aise. Enfin, c'était pas vraiment de l'éducation sexuelle, quoi. Et après, au lycée, c'était... on ne parle pas de sexe, on ne parle même pas de relations affectives, parce que dans le règlement, il y avait écrit... On n'a pas le droit, une fille, un garçon n'ont pas le droit de s'embrasser, en fait, dans l'enceinte du lycée. Donc, il y avait une espèce de vide juridique sur les personnes queer, genre...
Oui, bah ça.
Oui, il y a écrit fille-garçon, mais il n'y a pas écrit fille-fille, il n'y a pas écrit garçon-garçon.
Mais pour la bonne raison qu'il n'y en avait pas, donc voilà, il n'y avait pas besoin. Et donc, on n'en parlait pas. Et avec mes parents, en vrai, on n'en a pas beaucoup parlé. C'était pas non plus un tabou. Je pense que j'aurais pu leur en parler si jamais j'avais voulu. Mais l'occasion s'est pas trop présentée. Et après, j'ai un peu fait mon chemin tout seul. Et voilà, éducation sexuelle, bof. Par contre, j'ai été super étonnée positivement. Parce que dans le cadre de mon stage, j'ai assisté à une journée d'appel citoyenneté il y a pas longtemps. Le truc avec l'armée, là, quelle horreur. Mais oui, ouais. Quelle horreur. Et c'était le 8 mars. Donc, il y a eu un petit moment où mes collègues dans l'enceinte de mon stage ont parlé des droits des femmes, etc. Et donc, c'était des jeunes de 17 ans qui étaient hyper au courant sur le consentement, qui ont dit « Bah oui, mais enfin, il y a des mecs, ils étaient là. Bah oui, mais c'est évident, même si elle dit non au milieu, bah, c'est non et tout. » Et j'étais là « Mais... » Waouh, vraiment.
Ça court pas les rues en vrai.
C'est fou. Et même les filles étaient hyper, hyper renseignées là-dessus, sur le consentement, sur tout ce dont on parle aujourd'hui, ils étaient trop renseignés.
C'est bien.
Et j'ai été trop choquée.
J'ai un peu vécu ce que tu as vécu sur le lycée où on parle pas de choses comme ça, de relations affectives et tout. Et j'ai vraiment du mal avec ce concept de faut pas en parler parce que ça risque d'encourager. Les ados. Mmh. Et je me suis toujours dit, mais attends, mais vous croyez qu'on a besoin de vous pour être encouragé, ouais, genre, qu'on a besoin même d'encouragement pour vivre ce genre de choses ou pour en avoir envie. Et pour moi, c'est vraiment genre faire l'autruche et se dire, ah bah si on n'en parle pas, ça n'existe pas, je vois pas, j'écoute pas. Non, 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 ça existe. Genre, on le fera même si vous nous interdisez de le faire.
Ouais. Et tu le feras dans des conditions pas forcément.
C'est ça, parce que
t'as
pas eu les infos, t'as pas été rassuré, t'as pas eu les concepts de base. Alors qu'en fait, si tu les donnes, ça veut dire que les gens vivent leur début de sexualité ou au moment de relations affectives dans des bonnes conditions. Et pour moi, c'est de la désinformation, en fait. Mm-hmm. Je suis très déçue de ça.
C'est, je sais pas si on peut dire désinformation, mais en tout cas non-information. Tu vois, c'est tout autant pire, je trouve. Genre, comme tu dis, faire comme si ça n'existait pas, alors que bon, bah, déjà, on est quand même tous passés par là. Et je pense qu'il y a un côté encore tabou et gênant d'en parler des fois avec des enfants. Mm. Mais ça s'apprend. C'est quand même...
Mais en plus, ne pas en parler, ça rend la chose un peu interdite et ça excite encore plus pour le faire. Donc vraiment, c'est de l'illogisme pur et simple.
Mais c'est pas vraiment illogique, même si dans les faits, c'est illogique. Puisque tu dis, si on n'en parle pas, du coup, les gens ont plus envie de le faire. Mais c'est qu'il faut rompre le truc. C'est un peu comme l'addiction avec les drogues ou les choses comme ça. Si tu légalises un produit, ouais, t'as les faits, t'as une chute de consommation du produit. Et donc, effectivement, ce serait pareil. Et c'est le truc qu'il faut se mettre en tête, c'est que plus tu mets de répression, et plus tu as de la violence. Mm. Donc forcément, voilà. Et ça, pour le coup, je sais pas si ça a été démontré, mais il faudrait que je recherche des études sociaux dessus, mais je pense que ça a été montré, quoi. En tout cas, dans les faits, c'est ce qui se passe, quoi. Mm. Et on parlait, du coup, d'éducation des parents. Je me posais une question, tu me dis si tu veux pas y répondre. Comment, toi, t'as amené tous les sujets de la... du non-binaire, etc., auprès de ta famille?
Alors, je pense que c'était il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans. Déjà, j'ai dit à mes parents que j'aimais les filles. Ma mère, elle m'a dit « Ok, je m'en fous. Enfin, » ouais. D'accord.
Genre, d'accord, tu veux des pâtes ou pas?
Ouais, c'était ça, et c'était super chouette. Ça m'a pas empêché de pleurer. Elle disait « Ah, mais pourquoi tu pleures ?»
On s'en fout.
Ouais, c'est ça, et voilà. Et par contre, mon père, déjà, j'appréhendais pas mal. Et en fait, il m'a dit « Bah, je suis super déçue, vraiment. Je suis déçue, ça me rend triste et tout, machin. Et en fait, il m'a dit, mais t'inquiète, on va t'aider et tout, on va te soigner, il n'y a pas de souci. Machin. Le lendemain, il a appelé un médecin qu'il connaissait et tout pour lui dire, est-ce que vous pouvez faire un truc? Le médecin, il lui a dit, mais ça va pas ou quoi?
Merci.
Il n'y a rien à faire, vraiment. Et donc, au début, j'ai été assez indulgente. Je me suis dit, je peux comprendre qu'il ait besoin de temps. Et donc, je vais lui laisser ce temps et il n'y a pas de souci, je ne vais pas le brusquer et tout. Maintenant, on est à 2 ans après et ça n'a pas bougé. C'est un peu plus insidieux, c'est-à-dire que juste il n'en parle pas. Ou quand j'essaie de lui en parler, il me dit non, mais ça me rend trop triste et tout, machin, j'espère que tu vas changer. Donc, avec lui, le sujet de la transidentité, je ne l'ai pas abordé. Parce
j'imagine,
que,
ouais.
Voilà. Mais ma mère, je lui ai expliqué très simplement. Je me sens pas homme, pas femme, et voilà. Elle m'a dit, bah oui, je sais, t'es juste toi et tout. Et maintenant, le prénom, elle se trompe jamais. Les pronoms, elle se trompe des fois, mais elle a le droit. Ouais. Donc, voilà.
Oui, puis alors, les pronoms, moi, des fois, j'ai envie de dire, pensez pas que c'est contre vous, mais moi, je me trompe déjà de base tout le temps, avec tout. Genre, je mets genre des objets, donc à partir de là...
Moi, j'essaye de ne pas dire de pronom quand j'ai un doute.
Ça, c'est le mieux.
Comment tu vas, toi? Bonjour.
Ça, et moi, c'était les... Là, quand j'ai dû faire les posts pour le Cidre Action, j'ai commencé à écrire des trucs et j'étais en mode, les formulations pour inclure tout le monde. Donc, j'ai lâché juste un « merci à tous
».
Non, même pas. J'ai laissé un merci à toutes et tous. Et genre, je voulais écrire plein de trucs derrière, genre en mode merci pour les performeurs, et puis je sais pas, performeur, heureuse, machin. Et puis même, j'ai bugué sur, mais comment ça s'écrit en plus? Allez, genre juste merci.
Voilà. Ah ouais, c'est merci
bon.
À vous.
Merci c'est à vous, bon. Voilà. Merci à vous pour la soirée. Allez, c'est bon, c'est beaucoup plus simple.
Sur, sur le mégenrage et tout, je sais que mon frère est un homme transgenre. Et quand il nous l'a annoncé, ma mère lui a dit que, bah, genre, il n'y avait pas de soucis, mes parents sont hyper ouverts et tout. Mais que ceux avec lesquels elle aurait le plus de mal, c'est de le genrer au masculin quand elle parle de lui au passé.
Ah,
elle
oui.
me dit parce que, bah, en fait, les souvenirs, je les ai avec toi en tant que femme. Mm-hmm. Et du coup, j'ai du mal à me corriger toute seule. Et en fait, il lui a dit qu'il n'y avait pas de souci et qu'il comprenait. Et de toute façon, voilà, il était
indulgent. Attends, que c'est bienveillant.
C'est ça. Et elle le dit elle-même. Elle dit, c'est pas pour te faire la peine, juste je ne fais pas exprès. Mm-hmm. Et comme mes souvenirs, j'ai l'image de toi féminine. C'est compliqué, du coup, de se remettre dans le truc. Mais je trouve que, voilà, à partir du moment où c'est fait dans la bienveillance et dans la compréhension...
Exactement. Mm.
Toujours en discuter avant, de toute façon. C'est le
et puis, de toute façon, on le sent vite quand c'est... bienveillant et quand ça l'est pas, c'est vraiment ça se remarque.
Oui, c'est vraiment de la pique.
Oui.
Et quand c'est le regard à la voix qui va avec.
Quand c'est l'entre-deux, tu le sens ou pas? Ça, quand c'est genre en mode, en fait, c'est on s'en fout, tu vois.
Bah, il y a le on s'en fout bienveillant et il y a le on s'en fout.
Ok, ouais.
Ça m'intéresse pas. Ouais, tu nous fais chier, quoi. Ça me regarde pas, ouais, c'est
ouais,
ça.
Ouais, ouais. Ok.
On le sent.
On le sent aussi, ok.
Et pour revenir un petit peu plus sur le sujet de la sexualité, est-ce que toi, tu estimes que tu as vécu plusieurs premières fois ou que tu en vis encore?
C'est un peu bateau, mais j'ai l'impression qu'une première fois, c'est... Toutes les fois sont des premières fois. Et à chaque fois, tu te réadaptes forcément au partenaire que tu as en face, même si c'est le même. Tu t'adaptes à tes envies de là, maintenant, tout de suite. Un truc qu'il a aimé la dernière fois, peut-être que là, il n'aura pas envie. Et ouais, je pense que c'est une réadaptation un peu perpétuelle, quoi.
J'aime bien cette définition. Bon, réadaptation perpétuelle.
On l'entend
je note.
De plus en plus. Et moi, je trouve ça de plus en plus chouette.
Je trouve ça cool aussi.
T'es en train de me faire la réflexion que, genre, la première fois sexuelle, entre guillemets, ça revient vraiment à la même chose que la première fois que, par exemple, tu vas faire de l'escalade. Genre,
oui, vraiment.
Quand on parle aux gens, ils ont la même réaction. Genre, ils sont en mode, ah, mais enfin, et tout, c'est trop bien, machin. Alors, en fait, on s'en fout. Genre, en fait, c'est pas un truc à sacraliser. Genre, c'est la première fois de n'importe quoi.
Ouais.
Mais c'est cool si ça vous arrive.
Et que ce soit par rapport à ta sexualité ou à ton genre ou à toute autre chose, est-ce que t'as déjà ressenti de la pression sociale?
De la pression sociale à la sexualité, oui, clairement. En tant que personne perçue comme femme, même en soi, les hommes, il y a de la pression sociale, il faut le faire le plus vite possible, il faut avoir une performance de fou, que ça dure hyper longtemps. Et donc j'ai eu la pression sociale quand même de l'âge à laquelle, enfin, auquel tu le fais. Et après, dans un deuxième temps, quand j'ai commencé à voir que j'aimais les femmes et tout, quand je me suis renseignée sur la communauté lesbienne et tout, parce que moi j'habitais dans la campagne profonde, il n'y avait vraiment pas de représentation, du coup j'étais là sur Twitter, genre lesbienne, voilà, qu'est-ce qui se dit, c'est que ça marche comment. Et il y avait ce truc, et je crois que c'est encore un peu vrai, des lesbiennes qui disent un rapport sexuel lesbien ça dure 5 heures, c'est trop bien, alors que les rapports hétéros ça dure 5 minutes et tout. Et je trouve qu'il y a quand même une injonction comme ça à la performance, à ce que ça dure hyper longtemps.
Pour compenser le fait que ça, peut s'arrêter plus vite qu'un homme.
Ça dure 5 heures, tu couches avec la personne toute la nuit et tout, non.
Ouais, non. Je suis fatiguée, hein, genre.
Ouais, enfin, vraiment, il n'y a pas besoin que ça dure 5 heures.
Puis 5 heures ou 5 minutes, l'important, c'est pas la durée, c'est est-ce que c'est bien.
Hein.
C'est
oui, ça. J'ai des très bons rapports qui ont duré genre 5 minutes où tu te dis genre waouh, wow, ouais. C'était intense de fou. Genre, il n'y a pas d'injonction pour moi. Autant que ça doit durer. Après, c'est très subjectif, mais...
C'est quand j'étais plus jeune, j'avais une de mes cousines, la plus vieille de mes cousines, qui m'avait dit « Non, mais le sexe et l'amour, ça peut prendre une heure dans un lit de manière très romantique et cinq minutes sur la table basse, comme ça, en coup de vent, tu fais
c'est
très
vrai.
Bien. »
C'est très vrai.
Et c'est vraiment ça. Genre, il y a des fois où ça va être très bestial, des fois, ça sera très mignon. C'est un tout. Mm-hmm. C'est un spectre. Comment on va arriver sur cette question ? Du fantasme, du coup, des fantasmes que tu as dans ta sexualité, des pratiques que tu t'es imaginées, etc., des choses que t'aimerais vivre.
Je pense qu'aujourd'hui, j'ai pas vraiment de fantasme, enfin, que je projette en mode j'ai envie de faire ça la prochaine fois et tout. C'est plus un truc qui vient sur le moment. Par contre, dans le passé, j'ai eu des fantasmes comment dire, en fait, du coup, avec mon père, la relation était un peu compliquée, tout ça, même avant mon coming out, etc. Et clairement, je cherchais une figure paternelle. Et du coup, je fantasmais que sur des gros darons de 50 ans, alors que mes copines, elles étaient en mode « Haha, t'as vu, genre, Justin Bieber, il est trop beau !» Et moi, j'étais là...
Non, pas tant.
Ouais. Mais, je sais pas, tout le temps, j'avais des fantasmes sur des darons de 50 ans et... En fait, c'était plus un truc de protection et de validation. Enfin, je veux dire, voilà, j'avais juste besoin d'un repère qui ressemblait à un papa de loin, quoi. Et je sais que j'ai beaucoup fantasmé, du coup, plus jeune sur des mecs de 50 ans. Et encore aujourd'hui, je fantasme plus de manière sexuelle et tout, mais je ne peux pas m'empêcher, j'essaie de me soigner pour ça. Je ne peux pas m'empêcher quand je vois un mec d'une cinquantaine d'années qui me donne un tout petit peu d'attention, à me dire « Oh, j'aimerais trop que ce soit mon papa.
» Ouais.
Mais arrête de faire ça, c'est bizarre.
Toujours dans la
vraiment,
recherche de validation.
Oui, il faut arrêter, c'est bon.
T'arrives à travailler dessus et comment tu le fais du coup pour passer outre du coup ce truc-là ?
Oh bah, généralement, quand je parle avec ces mecs, ils se grillent tout seuls en fait. Des mecs de 50 ans, je me dis « Ah ouais, en fait, non, c'est un red flag, vraiment.
» Ouais.
Si j'ai pas envie que ce soit mon papa.
J'entends. Mais déjà que tu sois capable de t'en rendre compte et de le oui de, c'est ça de le conscientiser en disant tu fais ça c'est chelou, genre c'est déjà que t'as commencé le travail dessus, donc c'est bien en fait. Le travail est déjà entamé.
Bah de fou. Et alors du coup pour rebondir sur tout ça, comment tu places tes limites toi et quels sont tes tabous que tu imposes aux personnes que tu rencontres ou tes partenaires?
Les limites, je pense que c'est les trucs un peu genre les kinks en mode pipi et tout. No shade, mais ça me fait peur, vraiment. Voilà. Mais les trucs comme ça. Et sinon, je sais qu'il y en a pas mal qui aiment faire des trucs en mode c'est des bébés et tout. Enfin, un truc d'infantilisation.
Ah oui, je sais plus comment ça s'appelle ça.
Oh, ouais.
Child play, je crois, ou un truc comme
c'est
ça.
Du, baby oui, play. C'est baby play peut-être, ouais,
mais j'en avais. Voilà. Un truc dans le genre, ouais.
Non. Non. Mais non, sinon, je vois pas vraiment de limite. Enfin, après, une limite aujourd'hui peut ne plus être une limite demain et l'être plus tard. Voilà.
Comment toi tu réagis du coup si ton partenaire a une envie que tu partages pas ou inversement?
si mon partenaire a une envie que je partage pas, comme je suis un people pleaser, je pense que je vais culpabiliser et me dire ah mais est-ce que je le ferais pas quand même, et après j'ai une petite voix dans ma tête qui me dit non, vraiment
t'en as pas envie.
Mais c'est vrai que j'ai beaucoup ce truc de vouloir satisfaire les gens, mais que ce soit dans toutes les sphères de ma vie. Du coup je culpabilise un peu, et après on en parle, et elle me dit mais non, enfin c'est pas grave. Et à l'inverse, bah c'est pareil, pas de soucis tant qu'on en parle, voilà.
Ok. Et toutes ces expériences que t'as pu avoir et tous ces questionnements, ils ont dû t'amener du coup à définir ce qu'était un bon coup. Mm-hmm. Est-ce que tu peux nous parler du coup de ta vision du bon coup ?
Ma vision du bon coup, déjà, c'est ce serait une fois où je vais pas me sentir perçue comme une femme, parce que bah voilà, quand t'es habillée, t'as la limite de ton binder, enfin c'est du coup une brassière qui te fait un torse un peu plat, t'as cette limite qui te protège un peu des autres, c'est un peu un bouclier où tu te dis on voit pas que j'ai un corps comme ci comme ça, mais quand t'es nue avec quelqu'un, tu peux pas te cacher, et je peux pas m'empêcher de penser que la personne en face me voit comme une femme, et j'ai pas envie qu'on me perçoive comme ça. Et du coup, je pense qu'un bon coup, c'est vraiment un moment où je sens qu'on me perçoit juste en tant que personne et pas en tant que femme. Et où j'oublie moi-même que j'ai un corps comme ça, et juste, c'est trop bien, et t'oublies un peu le moment. Et quand c'est fini, tu te dis, c'était cool.
Qu'est-ce qui peut te faire ressentir qu'on te voit en tant que femme quand tu es nue ? Est-ce que t'as des signes en particulier, des choses qui te gênent ou qui te bloquent ?
Bah, je pense que c'est hyper personnel, parce que peut-être que les gens ils pensent pas du tout ça, mais juste bah, y a forcément un truc vulnérable à être nu, et déjà quand t'as un peu de dysphorie des fois, tu te dis bon bah pas facile. Mais aussi je pense qu'il y a des manières de toucher, enfin, j'ai entendu pas mal de personnes transmasques qui disaient que elles étaient ok pour qu'on leur touche la poitrine, mais il y a une manière de toucher une poitrine, genre en mode c'est des seins et en mode c'est un torse, et tu peux toucher différemment. Et voilà, je dirais ça.
Ok. Et tu dirais que c'est quoi ton rapport au sexe entre hier et aujourd'hui ? Donc entre ton passé et ton présent ?
Bah, dans mon passé, c'était un truc auquel je me raccrochais pas vraiment, et j'en faisais pas quelque chose d'important dans ma vie, parce que c'est un... Du coup, j'ai commencé sur une expérience pas ouf, et après, s'en est enchaîné l'adolescence, la dysphorie, machin. J'étais là, vraiment, j'oublie mon corps. J'ai
c'est
pas
secondaire.
Envie, j'ai pas envie d'y penser. Et après, j'ai trop aimé. Et je pense que dans le futur, j'aimerais encore plus, quand je serai encore plus à l'aise avec mon corps, je pense qu'il y aura vraiment un autre step à passer. Où je serais trop trop content.
Bah écoute, on se note la date, et dans 5 ans on te repose la même question.
Très bien.
En tout cas, on espère que ça ira de mieux en mieux.
Bah, de fou.
Tout ça.
On souhaite à tout le monde de s'épanouir dans sa sexualité de toute façon.
Mais oui, ça, mais hein. Il suffit de rencontrer les bons partenaires. Oh, franchement, oui.
Tellement.
Ça change beaucoup.
Dans les choses que t'aimerais améliorer, est-ce qu'il y a autre chose que juste le regard qu'on pose sur toi ? Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais améliorer pour avoir une sexualité plus saine et plus appréciable ?
Bah, je pense le lâcher prise, ça après, j'essaie de lâcher prise au max, mais je pense qu'on peut toujours encore plus se laisser aller. Et... Ouais, peut-être là-dessus, mais sinon, j'en suis très content actuellement. Donc,
J'ai l'impression que, à part dans les films, puisqu'on en parle souvent du lâcher prise, parce que c'est.
C'est le cheval de bataille de Léane.
Ouais, moi j'ai un mal avec ça aussi. Et j'ai l'impression qu'à part dans les films, personne m'a jamais dit putain, moi pendant le sexe, je lâche prise, genre totalement. En fait, tu me dis que c'est un saint graal, mais est-ce que c'est vraiment atteignable, vu que j'ai jamais rencontré quelqu'un qui l'a vraiment fait ?
C'est possible, mais je pense que ça demande du temps, et ce sera pas à chaque fois.
Ouais.
Je pense que c'est ça, parce que maintenant que tu poses la question, j'y réfléchis. Et bon, moi déjà, j'ai quand même beaucoup de mal aussi avec le lâcher prise dans le sexe, même si ça va en vrai. Mais je pense que ça m'est déjà arrivé, mais je pense que c'est pas les trucs que je fais à chaque fois.
Moi, maintenant, je peux dire que ça m'arrive.
Ouais.
mais je m'en rends pas forcément compte sur le moment. C'est peut-être mieux d'ailleurs.
C'est même mieux. Bah, alors en général, on va pas se mentir, si tu te poses pas la question, ouais. C'est que c'est bien.
mais je sais que dans un rapport, je peux avoir un moment où je pense trop et un moment où je me dis genre, ah, là c'est cool.
Ouais.
Donc c'est, ouais, en fait, je pense que j'attends ça comme le Saint Graal, comme si ça devait durer tout le rapport, mm-hmm. alors qu'en fait, ça peut durer que quelques minutes. Oh, ça y est.
Mais moi,
en fait, je me rends compte que je l'ai déjà atteint.
Ah putain, oui! Et tu sais que je faisais même, là tu disais un truc, ça me fait beaucoup rire, c'est le côté aussi où tu prends du plaisir, genre t'es en mode, mais moi je le conscientise après. Mmh. Putain, genre sur le moment, tu prends une énorme dose de plaisir et c'est après que tu fais, non mais là c'était vraiment trop bien. Hein, et sur le coup, tu bugs, enfin, j'ai l'impression que l'info, tu sais, elle est là, puis elle est en mode, attends.
Oui, il y a un glitch, c'est
attends, on y va maintenant, voilà, c'est même un peu.
C'est vrai.
Ah non, c'est super.
Et après tout ça, est-ce que tu pourrais dire que t'aimes le sexe ?
Oui. Ouais.
Encore un synonyme ?
Ouais.
J'apprécie.
J'adore.
J'adore.
Ouais, j'aime bien, ouais. Toi. Ouais, franchement, ouais.
Ok.
C'est clair et net.
Ouais, oui. C'est précis. De toute façon, allons droit au but. Hein. Et est-ce que... t'aurais un conseil à donner du coup aux générations futures pour que éventuellement des questions que toi tu te sois posées ou quelque chose que tu as appris tu voudrais pas qu'il le sache,
quelque chose que toi t'aurais aimé entendre aussi plus jeune peut-être.
Déjà, toutes les questions de consentement, vraiment on le répète jamais assez, mais ne pas se forcer à faire quoi que ce soit. Après il y a aussi le pendant inverse de ne pas se poser 10 000 questions non plus, parce que t'es jamais prêt à 100% à faire un truc. Et si t'attends d'être super, super prêt, ça arrivera pas. Donc, si t'as envie, que les conditions sont réunies et que tu le sens, ne pas se mettre de barrières forcément.
Mmh.
Voilà.
Mais encore une fois, comme on disait, c'est une première fois. Donc, forcément, ouais. Tu pourras jamais être prêt à tout. C'est comme repenser toutes les premières fois que vous avez fait quelque chose. Est-ce que vous étiez prêt à 100%?
Non. Mmh.
Est-ce que tu savais que t'allais te manger un mur quand t'as fait de l'escalade? Non, et ben tu le découvres, voilà, c'est tout. Et puis t'as mal, et ben c'est pas grave. On repart, c'est super.
T'es content de toi quand même.
T'es content de toi quand même.
Et est-ce qu'il y a une question à laquelle tu t'attendais à ce qu'on te pose? Je suis toujours persuadée que cette question n'est pas française.
Est-ce qu'il y a une question à laquelle tu t'attendais qu'on te... Ah putain.
Ah tu vois. Est-ce qu'il y a une question que t'aurais aimé qu'on te pose ou une question que toi t'aimerais nous poser? Ou les deux.
Une question. Peut-être la question des signes astro.
Oh.
Est-ce que vous auriez un top 3 des signes astro qui sont des très bons coups?
Mais moi, j'y connais rien.
J'en ai aucune idée.
Mais comment ça, vous connaissez pas?
On n'est vraiment pas calé en astrologie. Verseau.
Cancer.
Cancer aussi. Ah. Verseau, désolé.
Non, je me suis fait juger pour rien.
Si tu te posais la question, tu n'es pas
putain,
un bon coup.
C'était le goal de ma vie, merde. Ah non, moi j'y connais rien du tout. Je sais qu'il y a des gens qui apportent beaucoup d'importance à ça. Et tu vois, je saurais même pas dire quels sont les signes astro des personnes avec qui j'ai couché.
Ouais, il y en a sur TikTok qui font des classements des signes astro en fonction des meilleures performances sexuelles et tout.
Mais genre, est-ce que c'est toujours les mêmes en top 3?
Les scorpions, ils reviennent beaucoup en haut.
Ouais.
Oui, mais les scorpions, ils brisent des cœurs.
C'est vrai.
Voilà.
Mm-mm. Sauf mon père. Parce que mon père, il est super.
Oui, c'est vrai.
Près de ton papa.
Ouais, et les cancers, je sais qu'on est trop sentimental, mais heureusement, il y a les poissons qui sont pires que nous. Voilà.
Je suis bien d'accord.
Je suis pas sûre de connaître de poissons, cancer, ma mère. Sentimental, ça marche.
Ouais, les cancers, bah, écoute, c'est bien.
Ouais, bah les signes de l'eau. Hein. Bah, on aime la chialade, mon pote. Hein.
Non, mais en vrai, ouais, il faudrait que je me renseigne un peu. Mais je me suis déjà renseigné un peu sur mon propre signe, savoir quels sont les traits de caractère, etc., les ascendants, les trucs. Et en fait, je me dis que j'ai l'impression que je pourrais lire l'horoscope de quelqu'un d'autre et m'y retrouver quand même. Du coup, bon.
Non, c'est une science. Ça marche vraiment.
Je ne mets pas ça en cause parce que je suis pas assez renseignée pour dire l'inverse, mais je sais pas.
En plus, je suis pas si sûr que ce soit vraiment une question de signe, parce que tu vois, je pense que ouais, j'essaie de réfléchir à quel était les signes de mes axes, mais les deux qui me viennent en tête, c'est comme tu dis, c'est Scorpion et Poisson. Et je suis, c'est quand même deux signes très différents, mais parce que la manière dont j'ai eu de faire l'amour avec lui était très différente aussi. Mmh. Et donc les deux étaient un bon coup, mais pas pour les mêmes raisons.
C'est profond ce que tu fais.
Pour moi, faudrait que pour moi, pour que cette étude elle soit réelle et fiable, il faudrait genre un panel de gens, donc une personne qui couche genre avec 5 scorpions, 5 balances, 5 cancers, 5 machins, pour que vraiment ce soit fiable.
Mais tu peux pas, parce que du coup il y aurait qu'une personne qui aurait couché avec toutes ces personnes là et du coup il y aurait que son score elle qui compte, et elle serait valable que pour son score elle. Il faudrait que tout le monde couche avec tout le monde, en fait, ce qui est mon rêve.
Ça va me prendre la tête cette histoire là, je vais y penser toute la soirée. Je suis un mauvais coup.
Tu nous fais un petit
coup.
Topo et tout.
Non, mais quand India va entendre ça, elle va être deg aussi. Parce qu'elle est verso.
Ah, mais sorry India.
Franchement, c'est toi qui brises des cœurs en fait.
Oh, mais putain, mais je suis bête. J'ai une de mes ex qui est ici et qui est verso aussi. Elle va être ravie d'avoir entendu ça.
Ah, bah oui.
J'espère qu'elle écoute bien. On va lui poser la question après.
Et donc ça, c'est la question que tu voulais, toi, nous poser.
Oui, voilà.
Et il y a une question...
à laquelle tu t'attendais.
Ouais, à laquelle tu t'attendais. Pas mal.
Bah, pas vraiment. J'ai eu ce que je voulais. J'ai pu parler de Shakira et de Rihanna. Je pense que c'est le principal.
Mais tu peux venir en parler quand tu veux. Super. On peut te réserver une chronique spéciale.
Génial.
Riri et Chacha. Voilà,
avec
si tu veux. Alors, laisse-nous percer. Et là, il faut qu'on perce vraiment beaucoup, pour le coup.
Beaucoup, oui. Et est-ce que t'as l'impression que, pour ton épisode à toi, là, t'as tout dit? Genre tout ce qui te paraissait important.
Ouais, j'ai pu faire ma petite propagande LGBT, ça va.
Du lobby.
LGBT ouais. Féministe, on adore.
C'est beau.
Les wokistes, là.
C'est tout ce qu'on aime. Tu aurais une petite recommandation à nous faire, du coup? Culturelle ou littéraire ou quoi que ce soit d'autre?
Une recommandation... Bah, déjà, regardez Desperate Housewives, si vous ne l'avez pas vu.
Faut que j'y aille, oui. Ça fait des années qu'on m'en parle.
C'est hyper important. Et surtout, quel est votre Housewives préféré? C'est super révélateur, même plus que l'astrologie.
Tu trouves?
Ouais. Voilà, c'est ma recommandation. Il y a 7 saisons, il y a 24 épisodes par saison.
C'est un peu long, mais ça se fait.
Et voilà. Moi, quand j'ai fini la série, j'étais tellement déprimée que j'ai repris à l'épisode 1. Et comme ça, ça arrête jamais.
Et je fais ça depuis 7 ans.
Et c'est trop bien.
Je fais la même chose avec How I Met, j'avoue. Je suis un peu pareil là-dessus.
Je peux rien dire.
Bon, à l'inverse, par contre, dans How I Met, je suis persuadé que chaque personnage est un des personnages de la série. Ça va danser dans l'autre sens.
Ah, c'est bizarre, ça.
Alors, non, ça va. Genre, par exemple, genre Léane, je sais que c'est aller à mi-chemin entre une Barney et une Robin.
Ah oui, je vois.
Tu vois.
Comme moi, j'ai pas vu la série, je peux même pas savoir pourquoi on parle.
Voilà, elle est honteuse, hein, vraiment. Jusqu'au bout.
Vous êtes horrible, arrêtez de me chaîner pendant cet épisode. On me dit plein de choses méchantes, on me dit que je suis un mauvais coup, que je suis pas un bon personnage. C'est horrible.
J'ai pas dit que t'étais pas un bon personnage, au contraire, c'est des très bons personnages.
Je me sens persécutée.
C'est le personnage préféré de tout le monde.
Merci. On l'invitera plus.
En tant qu'expert, je juge que tu as été persécuté pendant ce podcast.
Merci. Voilà.
Et que nous n'allons rien faire pour ça,
super.
D'accord.
Robin, t'aurais une recommandation pour nous, sinon, au lieu de dire de la merde?
Bah, Gender Hacker, évidemment.
On l'a déjà recommandé, c'est triché.
C'est pas moi qui l'ai recommandé.
C'est Mathilde.
Non, mais alors, pour alors, premier degré, oui, on recommande Gender Hacker. D'ailleurs, si t'as des fanzines qui traînent, je serais très curieux de les voir. Parce qu'on les a jamais vus IRL, pour le coup. Et moi, qu'est-ce que je vous recommande? Bah, si vous êtes sur Bordeaux, je vous recommande... absolument d'aller voir des drag shows, parce qu'il y en a vraiment tout le temps, tous les jours, et c'est incroyable.
Oui.
Et voilà, moi récemment j'ai fait ceux de la SARL Go. Je pense que ce sont les gens les plus, les queens les plus drôles, les queens et les kings les plus drôles de Bordeaux. Je fais un gros big up à Mia qui m'a harcelé tout le week-end dernier pour que je dise que c'était elle la meilleure, et j'étais en mode je suis désolé, mais j'ai vu des shows qui m'ont plus touché que le tien. Mais c'était quand même très très drôle. D'ailleurs, Mia, j'en remets une couche, si jamais tu passes par là, c'est très, très, tu es très très drôle, tu es la drag la plus drôle, avec garnement. Voilà, comme ça, il n'y a pas de baston, c'était super. Donc voilà, ils sont 4 ou 5, je crois, dans la SARL. Donc vous avez Mia, Garnement, Médée, Jane, et il y en a un cinquième, mais je ne sais plus qui c'est, parce que je ne l'ai pas vu encore performer. Mais c'était super. Souvent au Wash Bar, pour ceux qui connaissent, sinon ils tournent un peu partout. Là d'ailleurs, c'est cette semaine, alors c'est trop tard pour vous qui écoutez, mais ils font un blind test sur le thème des bateaux.
Oh,
d'accord.
Je trouve ça incroyable.
C'est très précis, vraiment.
C'est très, très drôle.
Et aller voir des kings aussi.
Et aller voir des kings. Et
évidemment,
ouais.
Parce que sous-côté.
Mm-hmm. Très, très sous-côté. Déjà, on a quand même on a un show qui s'appelle Drag Race
en France qui a mis dès le premier épisode des Kings dans son dans sa série. Et ils en mettent au moins une fois par saison, donc c'est-à-dire mieux utiliser les Kings dans la saison 2 parce qu'ils ont.
Mais 3 secondes, vraiment donner plus de temps.
Voilà, donner plus de temps. Bon, après la première saison, elles sont juste venues faire coucou. Genre, vraiment, ça m'a rien. Alors que la deuxième, elle était maître de cérémonie et c'était extrêmement drôle. Elle était très très forte, mais c'est vrai que ça n'a pas duré très longtemps. D'ailleurs, putain, vraie question, est-ce que tu penses que pour un show comme Drag Race, il faut laisser que des drag queens et faire une autre émission avec des drag kings, ou est-ce qu'on peut mettre en compétition des kings et des queens?
Je les mettrais pas en compétition parce que les codes sont hyper différents et
ouais.
Je pense que les drag kings se feraient vite éliminer en vrai.
Ah, tu crois?
Bah ouais, parce que le public est hyper différent et
ouais,
habitué à voir des queens, à juger des queens, et c'est pas du tout les mêmes codes, donc ils verront une énorme différence, ils se diront ah, en fait c'est nul alors que c'est juste différent. Et je pense qu'on peut pas les juger sur les mêmes critères, donc une émission différente. Ouais.
Est-ce que vous êtes prêts? Je vais vous poser une question qui va vous retourner la tête. Est-ce qu'on n'est pas du coup devenu sexiste à juger des drag queens et les drag kings, on considère qu'on n'a pas besoin de les mettre en compétition?
Waouh!
Voilà, allez, je vous laisse avec ça. Bonne soirée.
Bah, il y a clairement un truc que les personnes affables, donc nées assignées femmes à la naissance, quoi, les meufs cis qui font du drag queen, les personnes transmasques qui font du drag king, pardon.
Ok.
Les personnes qui font du drag king, en général, c'est un peu mis de côté.
Oui, bah ça, complètement. Même si on essaie, je trouve quand même qu'on a, en France, on arrive quand même plutôt bien à les intégrer. Je sais pas comment ça se passe dans les autres pays au niveau des shows drag. Mais tu vois, là, pour le site d'action, vraiment, je trouve que le groupe de King là, qui a été monté, je m'y attendais pas et ils m'ont tellement régalé.
Oui, ils sont très
genre,
forts.
Ils ont fait un truc genre To Be Three. Ah. C'était incroyable. Et puis il y a vraiment une gestuelle. Moi, tu vois, genre, je suis très fasciné par les drag queens parce que je trouve ça magnifique, super beau, etc. Mais dans les drag kings, je trouve que s'ils ont la gestuelle qui va, ça devient mais d'un niveau de comédie mais incroyable. Il y en a un, c'est Cigario.
Incroyable.
Cigario, il était vraiment. Je te montre, j'ai pris des photos. Il avait vraiment. C'était vraiment le Tchad. Genre, c'était extrêmement drôle.
Il a
de voir ça. Il a acheté des coups de langue et tout son truc en mode machin et tout. En mode ouais, je suis trop un bonhomme. Ça m'a régalé. J'étais dégoûté parce que j'étais de l'autre côté de la scène, donc je ne l'ai pas beaucoup vu, mais je lui ai fait une photo incroyable. Je l'ai refait. Donc voilà. Donc, moi, ma recommandation, c'est les drag shows en général.
Très bien.
Et toi, Léane, c'est quoi ta recommandation vu que tu as fait tes devoirs cette semaine aussi?
Je vais recommander mon compte make-up. Parce que je vais faire bientôt le module drag et du coup vous pourrez voir ça. Ça s'appelle Ellie Mua, H-E-2-L-Y underscore Mua.
De toute façon, on vous met tout ça en description. Ouais. Parce qu'il y avait été. Bon, Desperate Housewives.
Je me fais de l'autopub.
Mais t'as bien raison, il faut. Voilà, mais Desperate Housewives, j'ai pas de lien, mais je suppose que c'est trouvable sur une certaine plateforme.
C'est sur Netflix, je crois. Ou Prime.
C'est sur Disney Plus.
Disney Plus.
Disney Plus, très bien. Voilà, donnons de l'argent à ces grosses sociétés non téléchargées. Et voilà. On conclut toujours du coup notre podcast par une petite musique.
Oui.
Est-ce que toi, t'as une musique du coup qui t'évoque la sexualité ou la sensualité, le plaisir?
Je dirais The Weeknd parce que The Weeknd passe partout.
Tout à fait.
Dans la sensualité. Et Die For You de The Weeknd.
Très bien. Eh bien, on va du coup conclure ce podcast avec cette musique. Génial. Merci beaucoup, Noé.
Mais
on était très contents de t'avoir reçu.
C'était trop chouette.
Ah, c'est trop bien.
Je suis contente.
Si le podcast vous a plu, qu'est-ce que vous pouvez faire?
Alors, vous pouvez sur Ocha, Apple Podcast, Deezer et Spotify noter, s'il vous plaît, notez bien. Sinon, dites-nous s'il ne va pas sur Instagram, parce que bon, je le prendrai très mal. Vous pouvez du coup aller écouter tous les derniers épisodes qui sont sortis, participer à tous les sondages, les trucs sur les stories que je mets sur Instagram. Et puis voilà, nous envoyer des petits messages, tout si vous voulez participer.
T'as fini déprimé sur la recommandation.
Merci.
Ben voilà. Et on en profite pour vous annoncer, parce qu'à mon avis, d'ici là, ce sera sorti le drop des nouveaux stickers. Du coup, nous en ai beaucoup qui seront collés un peu partout. On fera pas ça dès qu'on les a. Parce que là, au moment où on parle, on les a pas encore, mais ça devrait arriver très, très, très vite. Et voilà. Et ça sort beaucoup trop tard aussi pour ça. Mais du coup, il y aura Bordeaux Fête le podcast. Donc, s'il y a des gens qui nous écoutent parce qu'ils nous ont découvert à Bordeaux Fête le podcast, ben bienvenue. Bienvenue dans cette. Troisième saison de Toujours dans les bons coups. Et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Donc merci à tous. Bonne soirée.
Merci. Des bisous.
Et à bientôt.
dans Toujours dans les bons coups.
Bah ouais.
Articulate the feeling I'm going through. I just can't say I don't love you, 'cause I love you. Yeah, it's hard for me to communicate the thoughts that I hold, but tonight I'm gonna let you know. Let me tell the truth, baby, let me tell the truth. Yeah, you know what I'm thinking, see it in your eyes. You hate that you want me, hate it when you cry. You're scared to be lonely, especially in the night. I'm scared that I'll miss you, happens every time. I don't want this feeling, I can't afford love. I try to find reason to pull us apart. It ain't working, 'cause you're perfect, and I know that you're worth it. I can't walk away. Going through, but baby girl, I'm not blaming you, just don't blame me too. Yeah, 'cause I can't take this pain forever, and you won't find no one that's better, 'cause I'm right for you, babe. I think I'm right for you, babe. You know what I'm thinking, see it in your eyes. You want me, hate it when you cry. It ain't working, 'cause you're perfect, and I know that you're worth it. I can't walk away.
I'm just saying.